La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La mémoire du futur, voilà les mots apparemment paradoxaux que nous allons assembler, explorer ensemble cet après-midi dans le dossier de la tête au carré. Alors que la mémoire semble être par essence tournée vers le passé, elle est aussi en réalité intrinsèquement orientée vers le futur. Ce sont ces mots qui ouvrent l'ouvrage du neuropsychologue Francis Eustache, La mémoire au futur. Cette mémoire particulière se nourrit de nos souvenirs, elle est guidée par nos objectifs et constitue et continue justement à nos prises de décision. Cette mémoire a de multiples facettes que nous allons découvrir donc dans un instant avec Francis Eustache et le philosophe Bernard Stiegler. Et vous nous rejoignez dès maintenant avec vos messages, toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, une fourmi très très étonnante.
Oui, elle mesure 2 mm de long, vit à l'intérieur des arbres et creuse des galeries là où personne d'autre n'en est capable. Portrait de Mélissotarsus dans un instant.
Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouvons le docteur Dupagne pour sa chronique Santé polémique consacrée aujourd'hui à l'information sur le médicament. Hélène Bizot réalise cette tête au carré qui a été préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati.
La tête au carré. Magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Voilà, on va donc parler de la mémoire du futur tout à l'heure. Explication donc avec mes invités que je salue, le neuropsychologue Francis Eustache et le philosophe Bernard Stiegler. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Et bienvenue Francis Eustache. Donc la mémoire du futur, la mémoire prospective, voilà un domaine finalement très peu connu du public. Et pourtant, vous le dites, c'est quelque chose d'essentiel à nos vies, à la fois à titre individuel et collectif.
Oui, je pense qu'on s'est habitué, peut-être via la littérature, via le cinéma, à penser la mémoire uniquement au passé. Et ce sont des mots qui sont quasiment associés. Alors qu'en fait, quand on commence une journée, on voit plutôt ce qu'il y a devant nous. Mmh. Donc c'est cette composante mémoire du futur, mémoire prospective, on réserve plutôt ce terme-là pour la mémoire des actions que l'on va faire. Le concept de mémoire du futur est plus général et c'est ce qui guide effectivement nos choix, nos décisions. Alors elle s'alimente bien sûr des mémoires du passé, de nos connaissances générales, de certains souvenirs, de scènes que l'on a vécues auparavant, mais c'est elle effectivement qui donne le cap.
Voilà, donc on va découvrir avec vous ce concept et cette discipline assez récente également dans le champ des neurosciences. Bernard Stiegler, la mémoire justement à l'heure où toutes ces technologies nous entourent, c'est une vraie question aussi parce que nous externalisons de plus en plus notre mémoire biologique, on peut dire les choses comme ça ?
Y compris notre mémoire biologique, mais je dirais d'abord notre mémoire nerveuse ou psychologique, appelons-la ainsi, notre mémoire individuelle. Oui, aujourd'hui la mémoire est devenue le facteur numéro un du business. On le voit sur Facebook, Twitter. Facebook essaye de nous faire transformer notre expérience individuelle en une expérience collective à travers des posts, comme on les appelle.
C'est un réseau social de la mémoire pour vous, Facebook, avant
tout ? Oui, bien sûr, ouais. Et qui transforme très profondément la mémoire individuelle et la mémoire collective, avec quelques problèmes.
Ouais, on va voir lesquels avec vous dans un instant, parce que c'est absolument essentiel aujourd'hui au cœur de nos vies, et donc on va découvrir et cheminer sur ces chemins du futur, ces chemins de la mémoire, avec les messages des auditeurs. Toutes les questions sur franceinter.fr. Axel Villard, à la une de la science aujourd'hui, on découvre une foreuse des plus efficaces.
Alors oui Mathieu, mais ne vous y trompez pas, la foreuse dont on va parler aujourd'hui ne fait pas du tout ce bruit, puisqu'elle mesure 2 mm seulement. C'est une fourmi, l'une des plus petites de la planète. Elle s'appelle Mélissotarsus, elle est aveugle et vit à l'intérieur des arbres sur le continent africain. Alors Mathieu, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de couper un arbre bien vert à la force de vos mâchoires.
Ah non, jamais, non, vraiment pas.
Alors je vous le confirme, c'est très 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 difficile et c'est pour ça qu'elle intéresse les chercheurs, cette fourmi. Elle est capable avec ses mandibules d'y creuser des galeries sans la moindre difficulté. Elle fait l'objet d'une étude approfondie par des chercheurs français et nous recevons un de ces chercheurs. Bonjour Christian Peeters.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes zoologue pour le CNRS à l'Institut d'écologie et sciences de l'environnement de l'Université Sorbonne. Alors cette fourmi, Mélissotarsus, racontez-nous un peu son mode de vie très particulier. Pourquoi a-t-elle choisi de vivre à l'intérieur des arbres vivants ?
Donc Mélistersus est minuscule et elle a évolué pour se nourrir des arbres. Alors, la plupart des fourmis ne savent pas se nourrir des arbres, sauf par l'entremise des cochenilles qui sucent l'arbre. Et donc Mélistersus creuse des galeries à l'intérieur de l'arbre, un réseau de galeries dans lequel des cochenilles très spécifiques, les diespines, vivent et donc sucent une partie de la matière végétale.
Donc la fourmi creuse pour la cochenille, c'est ça qu'il faut entendre ?
Exactement. Et comme elle est hautement spécialisée et elle est incapable de sortir de ce réseau de galeries et donc de s'alimenter elle-même, par elle-même.
Alors ce qui vous a intéressé, c'est la manière qu'elles ont, ces fourmis, de creuser du bois vert. C'est une capacité que peu d'animaux ont dans la nature.
Oui, tout à fait. D'habitude, les fourmis nichent dans des réseaux de galeries qui sont déjà creusés, ou alors elles peuvent parfois ménager du bois mort, mais à ma connaissance, il y a très peu de fourmis qui creusent vraiment du bois vivant. Donc sous l'écorce.
Alors quel est son secret ?
Donc sa tête minuscule est en fait remplie de muscles, des muscles puissants qui activent donc ses mandibules, des mandibules qui avec une forme bien particulière. Et donc nous avons étudié la géométrie de ces muscles et nous avons montré que tout l'intérieur de la tête est vraiment rempli de ces muscles qui coexistent avec les autres structures essentielles, comme la cervelle, comme des glandes.
Comment est-ce qu'on fait pour aller voir la musculature d'une fourmi dans sa tête, alors que la fourmi elle-même fait 2 mm ?
Voilà, donc nous avons utilisé une technique d'imagerie très, très performante, qui s'appelle la microtomographie. Et donc mon thésard, Adam Khalif, a pu reconstituer la géométrie de ce muscle, et a pu montrer que, donc, au contraire d'autres fourmis, à la fois les muscles qui ouvrent et les muscles qui ferment les mandibules sont très très développés.
Et c'est la seule fourmi qui présente une tête avec tous ses muscles de cette façon-là ? C'est vraiment unique dans le règne animal ou pas ?
Non, il y a d'autres fourmis qui ont de grosses têtes, souvent des têtes allongées, et qu'elles utilisent pour activer les mandibules avec avec une grande vitesse, par exemple. Mais c'est rarement pour avoir une puissance continue.
Alors, est-ce que ces fourmis, Mélissotarsus, ont des prédateurs à l'intérieur de l'arbre ? Est-ce qu'il y a une vie ailleurs avec elles ?
Donc, elles vivent en isolation complète du monde extérieur. Et dès qu'on ouvre leur galerie, elles deviennent vulnérables. Parce qu'elles ne peuvent pas se défendre, elles n'ont pas d'aiguillon, elles n'ont plus d'aiguillon, elles ne savent pas marcher correctement. Et donc, elles utilisent de la soie qu'elles mélangent avec de la cire de bois pour combler les brèches. Et là encore, c'est une adaptation tout à fait inédite.
Donc elles ont perdu plein de capacités que d'autres fourmis ont, mais elles en ont gagné plein d'autres. C'est comme ça qu'il faut voir l'évolution de l'espèce.
Tout à fait. Et donc elles ont, en plus des mandibules puissantes, les 4 pattes arrière sont très spécialisées pour s'accrocher aux parois des tunnels pendant l'activité de perçage. Et donc, si on a des pattes comme ça, on ne sait plus marcher à l'extérieur de l'arbre.
C'est-à-dire que vous avez fait l'expérience de mettre cette fourmi sur un plancher, sur une surface plate, et elle ne marche pas, elle n'arrive pas.
Elle titube, elle ne parvient pas à se mettre debout.
On a une vidéo d'ailleurs.
Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez retrouver la vidéo de la fourmi qui tombe table sur la page de la Une de la Science. Une dernière question, Christian Peters. Ces fourmis, on n'en trouve qu'en Afrique, on ne peut pas en trouver en France ou en Europe ou ailleurs ?
Non, elles sont exclusivement africaines et à Madagascar aussi. Oui. Mais on la trouve dans une grande variété d'arbres, plus de 20 familles d'arbres. Et donc, elle est tout à fait capable de gérer cette activité. Donc.
Merci beaucoup en tout cas pour ces explications qui font l'objet donc d'une publication. Christian Peters, vous êtes zoologue pour le CNRS à l'Institut d'écologie et des sciences de l'environnement. Merci à vous. Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, 200 ans de science détruite en quelques heures à Rio de Janeiro, vous le savez, dans la nuit de dimanche à lundi, ce gigantesque incendie qui a ravagé le Muséum National Brésilien fondé en 1818. Et ce sont donc des collections complètes en botanique, en zoologie, en paléontologie qui sont parties en fumée. Parmi elles, une météorite de 5 tonnes et Lousia, le fossile de la plus vieille américaine à ce jour, âgée de 12 000 ans. Une perte inestimable, a déclaré le président du musée. Y aurait-il de l'eau sur Jupiter ?
Terre, question qui taraude les scientifiques depuis des années, qui trouve peut-être de nouvelles pistes de réponse. Une équipe de la NASA pense avoir identifié des traces de la fameuse molécule H2O dans la grande tache rouge de la géante. Les observations directes et infrarouges de la grande tempête ont permis de déterminer la composition des nuages à différentes altitudes. Dans la couche inférieure, on trouverait donc de l'eau liquide ou sous forme de glace. Des observations prochainement menées sur d'autres zones de Jupiter permettront de confirmer ou non cette composition. Et puis le LSD en dose homéopathique, ce serait la nouvelle tendance depuis quelques années dans la Silicon Valley aux États-Unis. De nombreuses personnes consommeraient quotidiennement de micro-doses de cette drogue, pourtant interdite, afin d'augmenter soi-disant leur bien-être et leur créativité. Aucune étude n'a pour l'instant mesuré les effets de ces drogues à dose très faible. Alors pour en avoir le cœur net, une équipe du King's College de Londres lance une large étude pour opposer micro-doses de LSD et placebo. Les chercheurs pensent que les effets ressentis par les adeptes du micro-dosing sont majoritairement dus à l'effet placebo, lui-même renforcé par le caractère illicite du produit. La mémoire du futur, c'est le dossier dans un instant. Et c'était la voix de M à l'instant.
La tête au carré sur France Inter.
Oh, j'en ai vu un bon.
C'est vrai?
Oui, et il vient de passer il n'y a pas une minute.
Un bateau blanc?
Bonjour, je m'appelle Doris.
Où ça? Dans quelle direction?
Il est parti par là. Suivez-moi.
Et le soleil?
Quand je disais lumière, je parlais du savoir. Et on dit que la solitude avive la mémoire.
Mon beau navire, ô ma mémoire, avons-nous assez navigué dans une onde mauvaise à boire? Avons-nous assez divagué de la belle aube au triste soir?
Demeure la mémoire gravitationnelle, mais l'étoile avec toutes ses planètes disparues ont en effet. Comment est-ce possible?
Une mémoire d'éléphant, ma mère. Éléphant de mer.
à ta mémoire de Célia.
Je vous chasse de ma mémoire.
Je vous garantis que la mémoire va vous revenir.
Et vous, là, affreux. Je vous ignore, je vous chasse de ma mémoire. Je vous balaye.
C'est un élixir qui permet d'effacer la mémoire immédiate.
Oh, mémoire. Tout me revient.
Voilà ce florilège autour de la mémoire préparé par Hélène Bizio et la mémoire du futur. Dossier donc cet après-midi de la Tête au Carré pour découvrir cette mémoire méconnue, pourtant essentielle, pour orienter notre devenir sur le plan individuel ou collectif. On l'a dit tout à l'heure. Pour en parler, Francis Stache, vous êtes directeur de recherche INSERM de neuropsychologie cognitive et neuroanatomie fonctionnelle de la mémoire humaine à l'université de Caen-Basse-Normandie. Vous êtes président du conseil scientifique de l'Observatoire B2V des mémoires. Et puis également avec nous, Bernard Stiegler, philosophe, professeur à l'université de Compiègne, directeur de l'Institut de Recherche et d'Innovation et président de l'association Ars Industrialis. Et vous êtes ensemble avec d'autres scientifiques, d'autres chercheurs dans cet ouvrage « La mémoire au futur » qui est publié aux éditions du Pommier. Bernard Stiegler, d'ailleurs, c'est suite à une conférence que vous aviez organisée sur le sujet, cet ouvrage finalement.
Oui, c'est-à-dire que ces livres sont tous issus de séminaires que nous organisons dans le cadre de l'Observatoire des mémoires. Nous sommes sept, donc d'horizons très divers, la neurobiologie, philosophie, histoire, neurosciences, intelligence artificielle.
Pour croiser les disciplines voilà, et réfléchir ensemble.
Voilà, et avoir une attitude transdisciplinaire sur cette réflexion sur la mémoire, ce qui paraît essentiel aujourd'hui, indispensable.
Et pourquoi d'ailleurs ? À cause des maladies, par exemple, qui concernent la mémoire.
Les maladies, c'est une porte d'entrée très importante de réflexion
de la recherche
sur
aussi.
La mémoire. C'est bien sûr très important. Il y a beaucoup de chercheurs qui, en neurosciences, qui travaillent sur les maladies de la mémoire. Mais l'éclairage des sciences humaines est aussi essentiel. L'éclairage des chercheurs qui travaillent sur le numérique est aussi essentiel dans le monde actuel. Et donc, c'est vraiment la démarche qui est encouragée depuis maintenant 5 ans par l'Observatoire. Et c'est le 5e livre donc qui paraît dans cette série.
Oui. Les auditeurs nous rejoignent bien sûr avec les messages, toutes les questions pour évoquer donc cette mémoire particulière. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Discipline donc autour de la mémoire du futur, Francis Eustache, qui est assez récente. Ça fait quoi, une quinzaine d'années à peu près qu'on s'y intéresse vraiment?
Alors, il y a toujours des précurseurs, il y a toujours des philosophes notamment qui ont disserté sur la mémoire et qui ont vu cet aspect prospectif, la propension par exemple d'Edmund Husserl, le grand philosophe allemand. Mais dans les disciplines scientifiques, notamment en neurosciences, les premiers travaux datent de la fin des années 2000, ouais. Avec le grand neuropsychologue Hendel Tölving qui a décrit en fait cette mémoire du futur par défaut chez les amnésiques. Il a montré que les amnésiques avaient un trouble du voyage mental. Alors certes vers le passé, oui. Ce que l'on savait déjà, mais aussi vers le futur. C'est-à-dire que si on demande aux amnésiques de qu'est-ce que vous ferez demain, qu'est-ce que vous ferez dans une semaine, eh bien ils ont tendance à répondre que ça paraît blanc, il y a rien, quoi, il y a pas de. Et c'est peut-être une compréhension très importante de la mémoire que de comprendre ça. C'est-à-dire que quand on a des troubles de mémoire, c'est pas simplement un déficit d'accès à nos souvenirs du passé, mais c'est aussi cette difficulté à se projeter. Ce qui est aussi, ouais. En fait, dramatique.
Et ça, ce sont les troubles et les cas pathologiques, justement,
voilà,
qui
nous
apprennent,
exactement.
Ces connaissances.
Et puis après, il y a eu l'imagerie cérébrale, comme dans beaucoup d'autres domaines. Et étonnamment, il y a eu une date qui sort, 2007. Il y a eu toute une série de papiers qui sont parus dans des grandes revues internationales, de chercheurs des États-Unis, d'Angleterre, de France, et qui ont montré le message principal, c'était qu'il fallait que les manips, les expériences soient construites à bon escient. Donc c'était des travaux qui étaient faits cette fois-ci plutôt chez des sujets normaux, des sujets sains, des jeunes qui se prêtaient aux expériences. Et les travaux montraient que les régions cérébrales qui s'activaient, c'était des expériences en IRM fonctionnel, mais à ces régions cérébrales qui s'activaient quand on évoquait des souvenirs du passé, dans notre mémoire autobiographique, eh bien, c'était des régions très comparables à celles qui s'activaient quand on se projetait dans le futur.
Oui.
Et donc, on a montré comme ça ce réseau en partie commun.
Donc, c'est ça. Dans le cerveau, il y a vraiment des connexions neuronales qui sont
identiques. Très fortes. Il y a des petites différences, bien entendu, mais il y a avant tout des ressemblances.
Ouais. Alors, la littérature scientifique, dont vous venez de l'évoquer, avec ses premiers papiers autour de la mémoire du futur, sauf que si on avait croisé la route de Bernard Stiegler bien avant, dès les années 80, on aurait entendu parler de la mémoire du futur. Car cet homme est un visionnaire. Ouais, non, mais c'est incroyable quand même, Bernard Stiegler. Parce que vous avez été commissaire d'une exposition donc à Beaubourg en 87, si ma mémoire est bonne, justement, qui portait ce nom de mémoire du futur. C'est quand même incroyable. Racontez-nous dans quel contexte, justement, est née cette exposition et ce concept de mémoire du futur.
En fait, j'avais été missionné par le ministère de la Recherche, Thierry Gaudin, centre de prospective et d'évaluation, et le ministère de la Culture, Monsieur Albera, qui était responsable de la recherche au ministère de la Culture, pour faire un travail sur de philosophie. Donc, pendant 2 ans, j'ai fait une recherche sur l'impact des nouvelles technologies sur les questions philosophiques, économiques, politiques.
À une époque où les portables n'existaient pas, parce que 87, les smartphones, c'est...
Voilà, c'était le début des micro-ordinateurs, en fait.
Oui, c'est ça.
Donc, par exemple, Macintosh, ce genre de choses, le Minitel, Et donc, c'est le début de la mise en réseau. J'ai donc fait cette étude que j'ai présentée au château de Vincennes, devant un aréopage de beaucoup de gens, dont le président du Centre Pompidou, des grands intellectuels aussi, il y avait même Jean-Luc Godard, des gens comme ça. Et donc, à la fin de cela, le Centre Pompidou m'a proposé de faire une exposition sur ce sujet pour le 10e anniversaire du Centre.
Oui.
Et donc j'ai travaillé avec la Bibliothèque publique d'information, et nous avons développé... Le président m'avait demandé, le président du Centre Pompidou, qu'est-ce que sera la bibliothèque de demain, d'après vous, au XXIe siècle?
Ouais.
J'ai répondu, je ne sais pas, mais je peux vous dire ce que j'espère qu'elle sera. Et donc, l'expo consistait à montrer que les gens allaient être réticulés, c'est-à-dire que nous allions voir des développements de réseau, que les gens accéderaient à de la vidéo, accéderaient à toutes sortes de fonctions. Bon, le traitement de texte et les SMS aujourd'hui, c'est d'une banalité extrême.
Mais
à cette époque-là, c'était totalement révolutionnaire. Et c'était réservé aux scientifiques, en fait. Voilà. Mmh. Donc, c'était ça le scénario de l'exposition, qui a eu beaucoup d'effets, puisque l'université de Compiègne m'a recruté à cause de cette exposition. Ça a eu beaucoup d'effets sur les gens qui géraient l'université de Compiègne, m'ont proposé un poste, mais également la bibliothèque nationale, enfin la très grande bibliothèque a été inspirée en partie par cette exposition, le projet de la TGB, ce qu'on appelait la TGB à l'époque, c'est Jacques Attali qui avait porté ce programme et qui avait d'ailleurs missionné Michel Melot, le directeur de la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou, pour concevoir une nouvelle bibliothèque. Et moi-même, j'ai contribué à tout cela. Et tout ça a fait qu'ensuite, j'ai développé beaucoup de choses, y compris pour l'INA, puisque l'INA était un des financeurs de cette exposition. Et tout à l'heure, j'écoutais votre florilège, et je me suis dit, il y a l'INA derrière.
Ah oui, bien sûr.
Parce que, l'Institut national de qu'est-ce que c'est que l'INA? Ils ont pris d'ailleurs la mémoire du futur. Ils ont repris le slogan. Alors,
c'était mémoire au pluriel d'ailleurs.
Oui, mémoire.
L'exposition. Du futur, mémoire au pluriel. Ça, c'est important d'ailleurs aussi.
Alors bon, ça s'est fait quand j'ai été directeur général adjoint de l'INA. Ça s'est fait avec. Je n'ai pas négocié. J'ai pas vendu là. Non, ça s'est fait à titre complètement gracieux. Mais l'INA, bon, j'en ai pris la direction parce que je m'intéressais beaucoup au métier de la mémoire.
Ouais.
Voilà. Les archivistes, ce sont des gens.
Alors, c'est ça.
Qui organisent la mémoire collective, la mémoire scientifique, la mémoire politique, et donc et l'INA, c'est un des lieux de l'archivation,
et bien justement,
des archives de radio, de
télévision, c'est intéressant parce qu'on peut faire plein de parallèles. Si on regarde justement les choses à la lumière des neurosciences, quand vous évoquez les archives, quand vous parlez des bibliothèques, tout ça, on est dans le stockage aussi des informations, et donc on est dans la mémoire, vraiment.
Et ça commence en Égypte et en Mésopotamie. Et ça, c'est très très important, parce que Francis, tout à l'heure, on se connaît bien, on travaille ensemble, Francis Eustache parlait de Husserl. Husserl est un philosophe qui s'est beaucoup penché sur ces questions, et sur la question de la mémoire, qu'il appelle la question de la rétention. Mémoriser, c'est retenir, donc c'est la rétention. Et il montre que la rétention se fait toujours pour la protension, c'est-à-dire pour l'anticipation.
Ben là, voilà.
Et moi, j'ai beaucoup travaillé à partir des travaux de Husserl, et en particulier d'un texte qu'il a écrit sur la géométrie, où il dit que sans l'écriture, il ne peut pas y avoir de protension géométrique. Pourquoi est-ce que je vous parle de l'Égypte en même temps que de Husserl? C'est parce que les Égyptiens, qui déforment les Égyptiens et les Chinois, qui développent les premières formes d'archivation sous forme écrite, ouais. Alors ce sont des idéogrammes, eh bien à quoi ça leur sert ça? Chez les Égyptiens, ça sert à anticiper les crues du Nil, c'est-à-dire ça sert à solvabiliser une catastrophe extraordinaire qui est la crue du Nil, qui détruit tout sur son passage, devient la richesse de l'Égypte et la puissance de l'Égypte, c'est-à-dire les capacités à irriguer, parce qu'on sait anticiper à partir de quand le Nil va entrer en crue, etc. Mmh. Donc la mémoire est toujours au service, en fait, du futur.
Très bon résumé, hein, Francis Hossa. On a magnifique. Tout, là, finalement, hein, pour on comprendre ce concept de mémoire du futur. Là.
On a tout, on peut peut-être ajouter le présent. Parce qu'en fait, la mémoire, elle est au présent. Et elle va s'orienter vers le futur, elle va récupérer, c'est le terme consacré, des éléments du passé, mais c'est le présent qui guide. Et donc ce sont les décisions que l'on prend à chaque instant qui orientent notre mémoire. Et
c'est un peu la gare de triage finalement, le présent petit, presque.
Oui, un peu. Et ça permet aussi de corriger un peu une vision de la mémoire où tout serait stocké, le terme a été utilisé tout à l'heure, de façon définitive. Ouais. Non, les choses évoluent, nos représentations, elles évoluent.
Et du recyclage surtout.
Voilà, il y a beaucoup de recyclage. Ouais. Et en fonction de nos aspirations présentes, mais également du contexte, des gens que l'on croise, des lieux où on se trouve, eh bien, nous allons puiser dans des mémoires très différentes.
Allez, on y revient ensemble dans un instant, et les messages des auditeurs sur le site de La Tête au Carré.
On a déjà volé des nuits, on a déjà foulé l'ennui, sans s'ennuyer, toucher les cimes, on a déjà frôlé l'ultime, on a déjà vu la couleur.
Holidays, on a déjà.
La conscience n'est peut-être véritablement elle-même qu'à partir du moment où la mémoire est intervenue. C'est la conscience présuppose la mémoire. Sans la mémoire, qu'est-ce qui se passerait? On n'aurait que des consciences instantanées, c'est-à-dire des expériences pures, non cumulatives, non capables d'être rapportées dans un récit, non capable d'être synthétisé de manière à pouvoir suivre un fil directeur dans sa propre vie. Et donc, quand j'ai une expérience que je ne retiens pas, tout se passe pour moi comme si je n'avais jamais été conscient de cela. Donc la conscience suppose la mémoire. Bergson le disait, Il disait même que la conscience est mémoire. Moi, je ne dirais pas ça. Dire que la conscience est mémoire, c'est oublier qu'il y a une expérience pure instantanée qui ensuite est cumulativement articulée avec d'autres expériences pures instantanées de façon à former une lignée autobiographique.
Voilà la voix de Michel Bitbol, chercheur en philosophie des sciences et directeur de recherche au CNRS, aux archives UCERL, à l'École normale supérieure de Paris, pour parler donc de la mémoire du futur avec Francis Eustache et Bernard Stiegler à l'occasion donc de cet ouvrage, La mémoire au futur, qui paraît aux éditions Le Pommier. Francis Eustache, Bernard Stiegler, un commentaire sur ce que vient de dire justement Michel Bitbol. La conscience, c'est la mémoire ou pas, selon vous, Francis Eustache?
La conscience a besoin de la mémoire. Elle a besoin de la mémoire pour voyager dans le temps. La conscience, c'est aussi le temps. Sinon, comme ça a été très très bien dit, on est figé dans le présent. Le présent est important, bien évidemment, mais il faut que l'on puisse voyager. Une mémoire qui fonctionne bien, c'est une mémoire qui voyage, hein, qui fait des allers-retours permanents et qui est aussi capable d'appréhender le présent.
Et les mémoires qui fonctionnent bien, on pourrait dire aussi.
Les mémoires, hein, parce que qui fonctionnent bien, si on les met en pluriel.
C'est ça, on a fait plusieurs émissions avec vous, on a toujours employé ce pluriel qui est d'importance. Bernard Stiegler, sur la conscience aussi, pour poursuivre les propos de Michel Bitbol.
Oui, ben moi je défendrais Bergson, parce que je pense que, faisons une petite expérience de pensée. Mm-hmm. Je ne sais pas combien il y a de milliers d'auditeurs de cette émission. Mais
allez, 700 000 à peu près.
Si on demandait à nos 700 000 auditeurs, qu'est-ce qu'ils ont retenu de ce que nous disons depuis le début?
Ah oui, j'aimerais bien savoir.
Nous aurions 700 000 versions différentes.
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, nous percevons le présent à partir de notre mémoire. Nous sélectionnons dans le présent. Mmh. Et donc, on ne peut pas séparer la conscience et la mémoire. Et on peut dire que la conscience est la mémoire, mais la mémoire telle qu'elle se projette à travers le présent dans le futur, bien entendu. Donc, c'est le temps.
Et en fonction de quoi on sélectionne? Alors justement, qu'est-ce qui fait qu'on trie et que chacun
d'entre
nous...
Eh bien de nos expériences. Ouais. Si par exemple je me mets à parler chinois, seuls les chinois pourront retenir parce qu'ils ont une expérience du chinois. Et donc la question c'est l'expérience qui est derrière tout ça. L'expérience est toujours un mixte de passé, de présent et d'avenir.
Expérience individuelle ou collective
et
d'ailleurs,
collective,
hein, parce que ça aussi
collective.
On peut justement, en parler justement
on
avec...
On parlait de l'Égypte tout à l'heure, ouais. Bon, là on parlait d'une mémoire culturelle. Après la question c'est comment la mémoire psychologique individuelle... Et donc, cérébral et corporel s'articulent avec ces dimensions-là.
L'historien Denis Péchanski est également parmi vous. Et exactement. Alors, sur cette mémoire collective, il a énormément de choses à raconter aussi, évidemment.
Le chapitre.
Ça fait partie de recherches qui sont menées. Hein.
Le chapitre est passionnant. Le chapitre de Denis Péchanski est passionnant. Et on voit, en fait, des mécanismes assez proches. Et ça va au-delà de l'analogie entre ces voyages des historiens, en quelque sorte, dont le rôle est de reconstruire la trame du grand récit. Ouais. Et on voit que les mécanismes sont très proches. Souvent, on discute, y compris avec Bernard Stiegler. Et ça va au-delà de l'analogie. C'est-à-dire que pour comprendre la mémoire, on revient au thème de l'observatoire et du livre, il faut vraiment que différentes disciplines soient convoquées pour comprendre les différents mécanismes.
Alors, une question de Sophie, intéressante sur franceinter.fr, qui demande s'il existe des amnésies de la mémoire du futur. Alors, Francis Eustache, est-ce qu'on peut aller jusque-là?
Alors, il existe des formes d'amnésie très, très différentes. On peut dire que les grands amnésiques, les personnes qui perdent la mémoire du passé au sens banal du terme, ont tendance à perdre aussi la mémoire du futur. Pas tous.
Ou mais une incapacité, une difficulté à se projeter et anticiper.
C'est-à-dire qu'ils vont conserver des connaissances générales. Si on leur demande un mariage, comment ça se passe, ils vont savoir qu'un mariage s'est ordonné d'une certaine façon. Mm-hmm. Par contre, pouvoir se projeter dans le mariage de telle personne, comment ça va se passer, ça va être beaucoup plus difficile. C'est eux-mêmes qui ne peuvent pas se projeter. Et puis autrement, de façon plus générale, beaucoup de pathologies neuropsychiatriques sont caractérisés par des difficultés. Alors, c'est pas une amnésie totale pour aller dans le futur, mais c'est tout de même des difficultés à contrôler la mémoire. Et ça, c'est vrai du syndrome de stress post-traumatique, les personnes qui sont envahies par des intrusions et qui n'ont plus cette capacité à se projeter. C'est vrai des gens qui ont des obsessions. C'est vrai des gens qui sont déprimés, qui vont être enfermés dans des idées noires qui vont les empêcher de se projeter. Donc en fait, c'est une excellente question parce que oui, chez les amnésiques, mais ça va au-delà. Hein, ça va au-delà et ce qui ressort, c'est ma dernière phrase, c'est qu'en fait, c'est une mémoire éminemment fragile, cette mémoire du futur.
Alors, Francis se stage justement sur des pathologies très bien connues, comme les maladies neurodégénératives, Alzheimer évidemment. Il y a des grosses difficultés aussi pour les personnes atteintes à se projeter dans le futur. On l'a constaté, ça, très clairement, ou
oui,
pas ?
Oui, c'est un champ de recherche, hein, comme nous l'avons dit au tout début, plus récent, hein, que la mémoire du passé. Mais maintenant, on sait. Hein. On sait, et certainement que les patients se rendent compte aussi de cela. Et les patients qui ont un début de maladie, qui en parlent, qui ont une connaissance de leur maladie, je pense que dans leur appréhension, il y a certes perdre le passé, perdre les souvenirs, ce qui est dramatique, une partie des souvenirs, mais c'est aussi cette capacité à se projeter, à imaginer, parce qu'il y a aussi le lien avec cette capacité de mémoire du futur, elle est proche de l'imagination, parce qu'elle nous permet de construire des scénarios plus ou moins plausibles, et à partir de là, de prendre des décisions. Enfin, c'est une partie aussi de notre libre arbitre, parce que tout ça est mêlé. Il n'y a pas la mémoire d'un côté, le langage de l'autre, le raisonnement de l'autre. Tout ça fonctionne de concert.
Donc on voit bien les difficultés lorsque la mémoire défaille, hein, précisément.
Tout à fait. Hein,
ouais. Bernard Stiegler, qu'est-ce que c'est que le futur, finalement ? Tiens, une question philosophique au cœur de cette discussion sur la mémoire. Parce qu'on parle de la mémoire du futur, mais c'est quoi, finalement, et ça ?
En français, on a trois mots pour désigner le futur. Le futur, le devenir et l'avenir. C'est-à-dire que pour moi, le futur se présente soit comme le devenir, soit comme l'avenir. En anglais, on ne distingue pas future et avenir, ça veut dire la même chose. Je le précise parce que, effectivement, et Francis Eustache soulignait tout à l'heure la question de la décision, enfin du présent, nous, les êtres humains, nous avons à produire notre futur. Dans le champ de l'étude neuroscientifique de la mémoire, on fait beaucoup d'expériences animales pour des raisons évidentes, parce que c'est très compliqué de faire des expériences sur des êtres humains. Mais il y a un problème, parce que les animaux ont un cerveau qui ne fonctionne pas avec les archives de l'INA, par exemple, ou avec les éphémérides des Égyptiens qui font la conquête de la vallée du Nil. Ce que je veux dire par là, c'est que les animaux sont pris dans une évolution que depuis Darwin, voilà, on décrit comme une lutte pour la vie, etc. Et cette évolution, on peut dire que c'est le devenir du vivant. Mais nous, notre problème, c'est pas seulement notre devenir, c'est notre avenir. Et d'ailleurs, notre devenir nous inquiète en ce moment. Le départ de Monsieur Hulot a provoqué beaucoup, beaucoup de réactions par rapport à l'avenir. Beaucoup de gens sont en train de dire, mais là, on va dans le mur. Et donc, comment est-ce qu'on anticipe, comment est-ce qu'on prend des décisions, pour quoi faire, pour non pas se soumettre au devenir de la technologie et tout ça, dont on nous dit, certains nous disent, le GIEC par exemple, qu'il est condamné à brève échéance, mais comment est-ce qu'on produit de l'avenir, c'est-à-dire quoi ? La possibilité de sortir d'une impasse du devenir pour produire une situation nouvelle. Et alors là, on est au cœur de la philosophie, c'est-à-dire aussi de la politique. Puisque par exemple, Aristote a travaillé sur ces questions de mémoire, Platon aussi, et même Socrate disait la vérité est une anamnésie, c'est-à-dire une remémoration. Qu'est-ce qui était en jeu là ? C'était prendre les bonnes décisions.
Ouais, avec donc la place de la philosophie dans la cité, hein, au cœur de ces grandes questions de société.
Et du savoir, parce que par exemple la géométrie, c'est une mémoire partagée par les géomètres qu'on apprend à l'école. Donc nous n'avons pas spontanément accès à la géométrie, il faut aller à l'école, il faut lire des livres, etc. Donc il y a toute une organisation de l'intériorisation de la mémoire, qui est extrêmement importante. Et notre cerveau, Stanislas Dehaene a souligné qu'il y a ce qu'il appelle le recyclage neuronal. Ouais. L'homme a une capacité de recyclage neuronal absolument fabuleuse. Ouais. Et donc, notre cerveau est fait pour intérioriser cette mémoire externe qui est dans l'outillage. En fait.
Stanislas Dehaene, qui était l'invité de Nicolas Demorand ce matin dans la matinale de France Inter et que vous pouvez réécouter, bien sûr, sur franceinter.fr. Francis Eustache, un petit mot rapidement avant de marquer une pause et de vous retrouver. Justement, l'expérience collective, le passé, est-ce que ça nous sert vraiment à anticiper l'avenir, parce que on voit bien que malheureusement les choses nous servent peu quand même et que l'histoire se répète souvent, non ?
Pour des raisons autres que le fonctionnement de notre cerveau, je pense que le fonctionnement de notre cerveau, le fonctionnement de notre mémoire, les choses marchent plutôt bien. Après, il y a les systèmes sociaux, les systèmes politiques. Qui marche un peu moins bien, et on le voit effectivement tout de suite, hein, de façon criante. Et un des points du livre. Il y a plusieurs chapitres qui abordent le sujet. Il y a le chapitre de Jean-Gabriel Ganassia, qui est spécialiste d'intelligence artificielle. Mmh. Bernard Stiegler, c'est le sujet de son chapitre. Et puis moi, j'y reviens à la fin du livre, dans la postface. C'est cette mémoire du futur qui est une merveille, qui est une merveille de la nature. Elle est aujourd'hui menacée, le terme serait fort, hein, si mmh. menacée, ce serait pour faire une analogie avec la biodiversité, avec le climat, etc. Mais on est un peu dans ce registre-là. On est un peu dans ce registre-là d'une merveille de la nature qui est menacée si on n'y prend pas garde.
Eh bien justement, il y a des questions pour vous des auditeurs, je vous les transmets dans un instant.
If you know people who know me, you might want them to speak, to tell you about the girl or the woman they know, more than you think you know about me, more than you think you know me. See you walking in circles, see you talking in circles.
Avec la voix de Lana Del Rey.
La tête au carré sur France Inter.
Voilà mes invités, Francis Stache et Bernard Stiegler, pour parler de la mémoire au futur, avec cet ouvrage donc aux éditions Le Pommier et les questions des auditeurs. Bernard Stiegler, Paul demande ceci, quelle est l'influence de la multiplication justement des supports externes de mémoire comme les disques durs sur nos capacités de mémoire? On en a un tout petit peu parlé avec vous, mais c'est un vrai grand sujet.
C'est un énorme.
L'externalisation de la mémoire biologique.
Énorme sujet. Hein, d'ailleurs, ce que disait Francis Stache tout à l'heure, à savoir que la mémoire du futur est menacée, la mémoire au futur est menacée, qu'il y a des, on peut se préoccuper, on peut s'inquiéter d'un certain nombre d'effets, passe par
ça.
Là.
C'est ça justement. Ouais.
Et ça, c'est un problème que le premier à avoir posé était Socrate, lorsqu'il disait que l'externalisation de la mémoire dans les livres, ça pouvait être très très bien parce que c'est l'origine de la cité grecque, de la géométrie, de l'histoire, de la géographie, de tout, du savoir. Mais ça peut être aussi une catastrophe. Et aujourd'hui, nous vivons un petit peu ce problème-là, parce qu'aujourd'hui, toutes ces mémoires externes qui vont plus vite que nous, c'est quand même important de le souligner, Notre rythme de traitement dans nos systèmes nerveux peut aller à plusieurs centaines de milliers de fois, voire millions de fois moins vite que l'information qui circule sur les réseaux, en tout cas...
À la différence du livre, là, pour le coup.
Fibre optique. Ah oui,
on n'est pas du tout dans les mêmes échelles de vitesse. Hein.
Là, on a affaire à des technologies qui évoluent à une extrême vitesse et nous n'avons plus le temps de les intérioriser. Une neuroscientifique américaine qui s'appelle Marianne Wolf a beaucoup, beaucoup travaillé sur ces questions. Elle a publié un livre dont j'ai fait la préface d'ailleurs qui s'appelle Proust et le calamar et où elle a vraiment fait de la clinique sur ces questions. Donc oui, il y a un très gros problème ici. Et ce problème, c'est donc un problème qui était posé déjà par Socrate au 5e siècle avant Jésus-Christ, mais aussi par Marx. Lorsque Marx disait que les machines capter le savoir des ouvriers et remplacer les ouvriers, ben c'est ce qu'on vient avec l'automatisation. Donc, il y a quelque chose là qui se pose, qui est une question fondamentale, qui est le rapport entre la mémoire externe, la mémoire interne, la mémoire collective et les critères de sa gestion. Pourquoi ? Parce que, par exemple, aujourd'hui, si vous regardez comment fonctionnent les plateformes, ce qu'on appelle les plateformes, Uber ou toutes ces choses-là, c'est essentiellement des systèmes de gestion de mémoire, en fait. Ils fonctionnent en sélectionnant exclusivement ce qui est calculable. Or, si on lit par exemple Marcel Proust, en quoi la Madeleine de Proust est-elle de l'ordre du calcul ? En rien. Et donc il y a une question ici de ce qui n'est pas soluble dans le calculable. Voilà. Aujourd'hui, on a une mémoire externe qui devient purement computationnelle, c'est-à-dire purement calculable, et elle élimine des possibilités qui ne sont pas calculables. En théorie de l'entropie et de la négentropie, ces possibilités ce sont des bifurcations. Des bifurcations négentropiques. L'entropie, c'est par exemple, l'anthropocène, c'est une augmentation de l'entropie généralisée. Si on diminue la capacité à bifurquer dans l'entropie, on condamne la planète.
Alors Francis Eustache, on va un petit peu plus loin sur les effets justement. Est-ce que c'est un vrai problème de santé publique quasiment au fond, l'externalisation de la mémoire, de nos mémoires
potentiellement,
sur des objets
chez
technologiques
chez les enfants notamment, qui n'ont pas connu l'avant.
Et donc c'est la mémoire à court terme qui...
Alors, une bonne mémoire, c'est un équilibre. C'est un équilibre entre une mémoire interne, ma mémoire, et puis la mémoire des autres, les mémoires externes. Et c'est pouvoir maîtriser l'une et l'autre de façon harmonieuse, le fait qu'elles fonctionnent de concert. Et puis c'est aussi un équilibre entre une mémoire très vive, à très court terme, qui nous permet de gérer des informations très vite et d'y réagir, mais également une mémoire sur un temps plus long. Et c'est cette mémoire qui est plus menacée. On a tendance, dans le monde d'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'être passéiste, mais il s'agit d'analyser la situation, on a tendance à être en situation stimulus-réponse. C'est-à-dire qu'on est toujours sollicité, les enfants sont très sollicités, les adolescents, avec les difficultés de sommeil, etc., qui vont entrer en jeu. Le sommeil est très important aussi à conceptualiser, parce que c'est ce sommeil qui permet de consolider la mémoire, etc. Et c'est cet équilibre qui est perturbé au profit d'une gestion à très court terme, mais qui ne permet pas de traiter les informations en profondeur, c'est le terme consacré, et donc de les synthétiser.
Sauf qu'on sait bien qu'on ne reviendra pas en arrière et que ces outils vont se multiplier.
Ils vont se
de
multiplier,
toute façon,
donc il faut faire avec, mais en même temps, il faut instruire, je pense.
Mais
il faut
en même
éduquer,
temps, on sait très bien que...
Ce matin, justement, j'écoutais Stanislas Dohen, et une question qui lui a été posée par Nicolas Demeurant, c'était les portables au collège. C'est vrai que c'est une mesure peut-être un peu symbolique, mais qui est forte, et qui donne un sens.
Sauf que les enfants vont aller aux toilettes pour se cacher et les utiliser, c'est ce qui répond quand on les interroge.
Peut-être, mais ça, c'est le job des potages
Bernard Stiegler,
de contourner un petit peu.
Une question se pose, c'est peut-être de reconcevoir ces technologies. Parce que moi, je pense que le modèle actuel qui est développé dans la psychanalyse, je connais très bien, parce que je développe des choses comme ça depuis très longtemps en plus, y compris au niveau de l'INA, c'était pour ça que j'étais venu à l'INA. Ce modèle actuel n'est pas le seul possible. Si l'Europe veut rebondir, il faut qu'elle invente un nouveau modèle. Le modèle actuel qui est développé dans la Silicon Valley, à court terme, il est extractiviste, il capte de la valeur, mais il détruit la capacité à la reproduire.
Et vous pensez qu'il va se tuer de lui-même
Il va nous tuer. Et donc, il est fondamental, y compris M. Trump, il contribue. Je veux dire, le discrédit de Twitter après Trump est considérable. Donc, je pense que l'Europe a une responsabilité historique de... En plus, c'est l'Europe qui a conçu le web, qui a inventé toutes ces technologies de base.
Alors, vous qui êtes un visionnaire, justement, alors on va terminer là-dessus, mais quel outil va falloir inventer pour renouveler finalement les usages.
Nous y travaillons en ce moment en Seine-Saint-Denis avec le territoire de Pleine Commune, Orange, Dassault Systèmes et un certain nombre d'autres à inventer des nouvelles plateformes qui produisent de l'incalculable et qui doit être objet de délibération, qui n'est pas simplement le résultat de traitement automatique. Bon, ça.
Bon, il faut qu'on fasse une émission là-dessus, avec Bernard Sigler, parce que ça nous intéresse vraiment d'en savoir plus. Et là, c'est une question de prospective et puis aussi d'avenir proche, hein, pour l'humanité. On peut le dire tout simplement comme ça. En attendant, on peut lire La mémoire au futur, Francis Eustache. C'est donc aux éditions Le Pommier, avec beaucoup de scientifiques qui vous ont rejoint dans les sciences dures comme dans les sciences molles. Et c'est avec l'Observatoire B2V des mémoires. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans La Tête au Carré.
France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
Dominique, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Alors Agnès Buzyn a reçu lundi un rapport attendu sur l'amélioration de l'information sur le médicament, c'est bien ça?
Oui, c'est ça Mathieu. C'est la synthèse d'une mission mise en place cet hiver suite aux scandales et crises de confiance entourant la dépakine, le lévothyrox ou les vaccins. Alors contrairement aux médiators, ces médicaments ont un intérêt majeur, mais leurs utilisateurs souffrent d'un défaut d'information. Et donc, comment peut-on améliorer cette information?
Alors, que dit ce rapport?
Il commence par faire un constat sévère. Les autorités sanitaires françaises n'ont pas su anticiper les problèmes, ni détecter leur montée en puissance malgré les signaux envoyés par les réseaux sociaux. La réponse officielle à ces crises a été tardive, incomplète et trop technique, ne faisant qu'aggraver le ressentiment des victimes. La mission propose ensuite plusieurs pistes d'amélioration plutôt bienvenues.
Alors lesquelles?
Tout d'abord, regrouper sur un site unique qui s'appellerait Médicaments Info Service toutes les informations officielles et validées qui concernent les médicaments. Il est clair que l'éparpillement actuel n'est pas satisfaisant. Alors la deuxième piste d'amélioration me réjouit. Je cite son titre. La confiance ne se décrète pas, elle découle principalement de la croyance dans la probité et l'intégrité des acteurs en présence. Pour la restaurer, la transparence est un facteur clé. Je croirais m'entendre. Oui, la confiance se mérite. Oui, la transparence de l'information et la probité des experts en constituent les piliers. C'est l'occasion de rappeler que plus de la moitié des Français croient que le ministère de la Santé est de mèche avec les industriels pour leur cacher la nocivité des vaccins. Ce chiffre hallucinant donne une idée du chemin à parcourir. Alors, à propos de transparence et de probité, il y a une des propositions qui m'amuse, étendre aux journalistes et aux blogueurs l'obligation de publication des liens d'intérêt.
Ouch, hein,
ouais, oui. Ouais, ça pourrait faire des surprises. Hein. Alors actuellement, seuls les professionnels de santé sont concernés et leurs liens d'intérêt sont publiés sur le site transparence.santé.gouv.fr.
Est-ce que vous en avez vous-même, Dominique Dupagne? Vous avez déjà répondu à cette question?
Oui, oui. Alors, je suis mentionné pour une rémunération de 150 euros en 2015 pour avoir répondu à un questionnaire d'enquête. Mais alors, revenons au rapport. Une autre proposition me paraît importante. Mieux intégrer les représentants des patients au sein de l'agence du médicament. Or, ça suppose d'avoir des représentants compétents et crédibles, ce qui est bien difficile pour les associations qui refusent d'être financées par les industriels et qui ne vivent donc que de leurs cotisations. Quand on sait que les lobbies sucriers financent un livret sur le sucre diffusé par l'Association française des diabétiques, il y a de quoi être inquiet.
Ça, c'est vrai.
Hein. Bon. Alors, le rapport propose donc de soutenir financièrement les associations de patients indépendantes des lobbies pour en faire de véritables partenaires, associés à toutes les étapes de l'élaboration et de la diffusion de l'information. Personnellement, ça me paraît absolument fondamental. Enfin, il y a une dernière suggestion qui est très pertinente de la part de la mission. Créer des espaces de dialogue sur le web pour répondre en temps réel aux questions du public sur le médicament. Alors, à mon avis, ça représente quoi? 10 médecins à temps plein, soit une goutte d'eau par rapport aux effectifs actuels des agences et à l'enjeu de ce type de service. Alors, il reste bien sûr l'inconnu habituel. Que va devenir ce rapport?
Ah oui,
ça,
c'est vrai,
ça, c'est une autre histoire. Il y a des armoires
et des tiroirs.
D'être calés.
Des tiroirs. Merci beaucoup, Dominique Dupagne, chronique à réécouter sur franceinter.fr.